France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
18h54, l'heure de l'édito. Bonsoir Anthony Bélanger.
Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous.
Et ce soir, Anthony, direction la Russie, où l'on a donc retrouvé un prisonnier de guerre japonais, non loin de Saint-Pétersbourg.
Oui, l'histoire est belle, hein, d'autant plus que l'homme en question est très âgé. Hein. Il a aujourd'hui 89 ans, il s'appelle Akio Tanaka. Il vit à 60 km de Saint-Pétersbourg, dans un petit village appelé Pogi. Et effectivement, cet homme est tout ce qu'il y a de plus japonais. Alors évidemment, la question est, que fait ce japonais de 89 ans au fin fond de la campagne russe, à 7600 km à vol d'oiseau de Tokyo? Eh bien en fait, Akio Tanaka fait partie des 600 000 prisonniers de guerre capturés par la Russie. C'est en 1945, c'était en Mandchourie. Je rappelle pour mémoire que l'URSS a déclenché son offensive contre le Japon, c'était le 8 août 45, c'est-à-dire deux jours après le largage de la bombe d'Hiroshima et la veille de celle de Nagasaki. L'URSS ne prenait donc pas grand risque et a vaincu très rapidement. Ces 600 000 prisonniers japonais, dont un dixième va mourir de mauvais traitements, de maladies et de faim, ont servi de travailleurs forcés des camps répartis dans toute l'Union soviétique et la plupart ont finalement été libérés entre 46 et 56.
Mais pas, visiblement pas notre japonais.
Hein. Oui, voilà, lui faisait partie ou fait partie, selon les japonais, du petit millier de prisonniers qui ont choisi, entre guillemets, de rester en URSS pour des raisons personnelles d'ailleurs, la plupart du temps, c'est-à-dire grosso modo qu'ils s'y sont mariés. Akio Tanaka a bien essayé de revoir le Japon, hein, mais les difficultés pour voyager à l'époque soviétique, puis l'âge l'en ont empêché. Aujourd'hui, il rêve tout de même de revoir son île natale d'Hokkaido. Il parle presque plus japonais d'ailleurs. Et puis une avalanche d'articles dans la presse japonaise devrait, vous l'imaginez bien, l'y aider. Mais au-delà de son cas personnel, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle illustre parfaitement les relations compliquées, voire conflictuelles, qui caractérisent les rapports de la Russie et du Japon. D'abord, jamais les deux pays n'ont signé de véritable traité de paix à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Juste une petite déclaration commune de 56 qui justement règle définitivement le sort des derniers prisonniers de guerre.
Et si les deux pays n'ont jamais signé de traité de paix, Anthony, c'est notamment à cause des îles Kouriles.
Ah, les îles Kouriles, exactement. L'archipel des Kouriles est un groupe d'une quarantaine d'îles qui s'allongent, vous savez, de Hokkaido à la péninsule russe du Kamtchatka. Elles sont occupées depuis la fin de la guerre par la Russie et la moitié méridionale de ces îles, eh bien, est revendiquée par le Japon. Voilà pour la géopolitique. Régulièrement, des pourparlers ont donc lieu entre Moscou et Tokyo pour tenter de trouver un accord en vue d'une restitution. Non seulement les 17 000 habitants japonais des Kouriles ont été expulsés, c'était dans les années 50, mais la plus méridionale de ces îles, qui s'appelle Kanashiri, n'est qu'à 7 km d'Hokkaido, c'est-à-dire du Japon. Or, ces pourparlers sont systématiquement des échecs. Les derniers ont lieu pas plus tard qu'en décembre dernier. Le Japon s'est dit prêt à investir en Russie quelques 1000 milliards de yens, et la Russie en a bien besoin, ça fait 8 milliards d'euros, et ce dans l'économie russe, et puis rien. Comme d'habitude, Russes et Japonais sont repartis mauvais amis, mais en promettant bien sûr de se revoir bientôt. En fait, le contentieux des îles Kouriles est très important pour comprendre comment fonctionne le Kremlin et la diplomatie russe. Les îles Kouriles sont le tout premier conflit gelé de l'histoire moderne de la Russie. Alors un conflit gelé, c'est un conflit territorial entretenu artificiellement par les Russes qui n'a pas vocation à être résolu mais alimenté une sorte d'abcès de fixation, une sorte de pierre dans la chaussure diplomatique. Dans le monde entier, la Russie en entretient quelques-uns de ces conflits gelés. Vous savez, la Transnistrie avec la Moldavie, à la frontière de l'Union Européenne, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie avec la Géorgie, et le dernier, bien sûr, le Donbass et la Crimée avec l'Ukraine. L'idée est toujours la même et elle est redoutablement efficace. Mais y maintenir des troupes et des gouvernements fantoches et discuter de leur avenir pour les siècles des siècles afin de maintenir avec son voisin, remuant ou pas d'ailleurs, une tension permanente de basse intensité.
Anthony Bélanger, merci.